C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle de la stratégie social media d'Ayana Kamura. Et pour m'accompagner, je suis avec ma caution musique urbaine, si je puis dire, Adjan Chélil. Salut Adjan.
Salut Thibaut, comment ça va?
Ça va bien.
Eh ben écoute, moi ça va super, on va parler d'Ayana Kamura, effectivement. Et ça me fait plaisir qu'on parle de cette star de la musique, parce que même je pense au-delà de la musique urbaine, c'est vraiment une pop star énorme en France et d'ailleurs dans toute la francophonie.
Bah, c'est simple, c'est l'artiste la plus streamée, l'artiste française la plus streamée au monde.
Ah, ça m'étonne pas.
C'est extraordinaire, loin devant toutes les légendes de la chanson française, la pop française, etc. Enterré Johnny Hallyday, place à Ayana Kamura, une sorte d'ovni qui retourne le monde de la pop internationale depuis 7 ans maintenant, hein, c'est finalement très jeune. Elle est française, elle s'appelle Ayana Kamura, on peut être fier de cette réussite, hein, parce que c'est d'abord une success story.
Bah ouais, vous connaissez tous Ayana Kamura depuis au moins, je vais te dire, 5 ans, puisque il y a 5 ans, bon, avant ça, elle avait fait quelques feats avec des rappeurs, etc., qui lui a permis de se faire un petit peu connaître, mais il y a 5 ans, elle signe en maison de disque et elle sort son premier gros tube, Comportement. Bah ouais, j'ai dit Comportement, bah ouais. Je sais pas si tu t'en souviens, Thibaut, ça devait être autour de 2017. C'est 103 millions de vues, hein, sur YouTube aujourd'hui, Comportement, bah ouais. Je vous ai mis le lien si vous voulez vous faire un petit kiff dans les notes de l'épisode. Et puis derrière, son plus gros tube, celui qui elle enchaîne directement avec celui qui a retourné la planète entière quasiment, hein, puisque c'est Jaja. Jaja, c'est le déclencheur qui va vraiment faire d'elle. Elle va passer de la star en France à la star quasi internationale à ce moment-là, puisque Jaja, c'est tout simplement 905 millions de vues sur YouTube. Elle va bientôt atteindre le milliard, vous imaginez, de vues sur YouTube. C'est énorme. Après, bon, on connaît la suite de la success story. Il y a Pookie derrière et puis son nouvel album maintenant qui sort. Mais elle est arrivée à un moment donné avec Jaja, Pookie à dominer aussi des marchés étrangers, c'est ça qui est assez incroyable. Elle s'exporte à l'international, il y a eu des remixes de ses morceaux qui ont été faits par des Américains, par des Italiens, par toute l'Europe, en Afrique,
on a vu
énormément
Beyoncé,
aussi.
Madonna danser sur Jaja, c'est incroyable.
Non, c'est incroyable, c'est énorme, c'est une star, on se rend même pas compte, je pense, encore vraiment de la dimension au niveau international.
Et donc Ayana Kamura vient de sortir nouvel album. Cet album, il s'appelle DNK, album sorti le 27 janvier 2023, donc c'est tout frais. Et ce matin, on vous propose de nous pencher sur la stratégie social media, notamment de cette sortie, mais plus globalement de la marque Ayana Kamura sur les réseaux sociaux, parce que c'est réellement une marque. Alors, par où commencer? Déjà, ce qu'on peut... Moi, j'avais envie de parler ce matin du travail justement autour de la marque Ayana Kamura, le travail de conception-rédaction, si je puis dire, qui renforce l'ancrage communautaire. Alors, des grands mots pour parler de musique pop, mais pourquoi pas? Parce que une des signatures de l'artiste Ayana Kamura réside notamment dans son écriture. Aucun doute là-dessus.
Bah oui.
Ses musiques, elles mélangent des expressions actuelles, on va dire, hein, un peu cours de récré ou contemporaine, très contemporaine, du vocabulaire utilisé au Mali, hein, notamment dans des expressions maliennes, puisqu'elle est d'origine malienne, et des mots qu'elle a elle-même inventés. Et c'est cette partie-là qui m'intéresse particulièrement. Tu parlais de Jaja, hein. Oh Jaja, il n'y a pas moyen de Jaja, tout le monde la connaît. Je suis pas ta catin Jaja, genre en Katchana, baby, tu dead ça. Et bah, là-dedans, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui se jouent rien que dans ce refrain. Déjà, ce qui est intéressant, Jaja, c'est un mot qui a été créé de toutes pièces par la chanteuse. Ce mot-là, initialement,
personne
n'existe pas.
Personne ne le
connaît
avant Jaja, ouais.
Voilà, alors moi qui ai...
À moins que ce soit un petit surnom qu'elle me donne.
Moi qui ai une belle famille algérienne, tout le monde me disait, ça veut dire poulet, Jaja en arabe. je vois pas le rapport, Jaja. Eh ben, non, c'est un mot qu'elle
c'est
a...
C'est peut-être pour dire mon poulet, mon petit
voilà.
poulet.
Eh ben, selon elle, ça veut dire menteur. Voilà, un Jaja, c'est un menteur. Donc, elle a inventé de toutes pièces ce mot. Et aujourd'hui, qui est devenu plus qu'un mot, qui est devenu quasiment une baseline pour la marque Ayana Kamura. Pour moi, ce que fait dans son écriture Ayana Kamura, c'est... quasiment du marketing, si je puis dire, ou plutôt presque du packaging, c'est-à-dire c'est l'emballage de la marque.
T'as raison.
Même chose avec l'expression « dead ça ». extraordinaire, cette expression d'Elsa. Hein. C'est une création pure de la chanteuse. C'est elle qui
On est sûr que c'est vrai.
Sûr et certain. C'est elle qui a inventé, c'est elle qui a popularisé cette expression d'Elsa qui est rentrée aujourd'hui dans le langage courant. D'où ça vient? Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà, si vous ne savez pas? D'Elsa, ça veut dire t'as réussi.
J'ai réussi, ouais, voilà. J'ai couché le truc, quoi. Exactement. Je l'ai fait, quoi.
Ça vient de l'expression you killed it en américain. Ouais. T'as tué ça. Donc, elle a transformé ça. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est la première qui a inventé, popularisé. Ça, c'est rentré dans le langage courant et je trouve ça très intéressant parce que inventer son propre champ lexical comme le fait Aya Nakamura, eh bien ça crée de l'appartenance, un sentiment d'appartenance. En gros, quand t'as une bande de potes, t'as des mimiques, des gimmicks,
des codes communautaires.
Exactement.
Tu
sais qu'avec un petit bout de mot, un petit bout de phrase, parfois même un geste, eh bien tu appartiens à un groupe. Eh bien là, c'est la même chose, le même travail qui a été fait par Aya Nakamura.
Mais t'as raison de le souligner. Moi, ça me fait beaucoup penser à ce qu'on avait pu dire aussi sur Jul, hein, par exemple, et les codes communautaires que lui aussi avait créés. Et effectivement, il y a tout cet univers-là, ce côté on va créer nos propres mots, nos propres codes, des codes générationnels aussi. C'est la star d'une génération, Aya Nakamura. Et je pense que effectivement, c'est des choses après qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux, qu'on va retrouver dans ces hashtags, qu'on va retrouver.
Je discutais avec mon associé Rémi ce matin, qui me disait mais c'est aussi ce qu'a fait PNL. À l'époque, avec QLF, etc., ils ont travaillé leur propre champ lexicaux, ce qui ont permis d'établir leur marque. Si
exactement.
Je puis dire.
On ne sait jamais, tu vois, c'est marrant parce que dans le milieu de la musique, on ne sait jamais si c'est volontaire, réfléchi en amont et effectivement carrément une stratégie qui a été mise en place ou si ça s'est fait un peu naturellement, mais ça, la finalité est la même. À la fin, c'est des codes communautaires qui reviennent. Tu parlais de son nouvel album, DNK, du coup, il s'appelle comme ça parce que c'est son vrai nom de famille, hein, Danyoko. Je sais pas si tu savais.
Je ne savais pas, j'ai découvert ça en bouquinant, en potassant pour cette
époque. Et moi, j'aimerais bien qu'on parle de l'angle qu'elle a pris pour cet album, d'un point de vue même musical, parce que autant elle était sur un album précédent très très pop, très personnel, très aussi un peu love, autant là, son nouvel album part beaucoup plus dans des teintes de musique caribéenne. Hein. On retrouve plein de dérivés un peu du dancehall, de compas, et notamment, il y a un morceau qui fonctionne hyper bien et qui est en train de cartonner TikTok petit à petit, c'est le morceau Belek. Tu pouvais aller l'écouter hein, sur Spotify. Alors, on serait dans une musique qui s'appellerait le Chata, qui viendrait.
Ou le Bouillon, j'ai lu les deux.
Alors,
en fait,
Bouillon, ouais, ça serait Guadeloupe. Même elle, si vous allez écouter sur Spotify, elle décrit le morceau. Et même elle dit au début, je pensais que c'était plutôt du Bouillon. Après, on m'a dit qu'en fait, ça ressemblait plus à du Chata. Le Chata est un peu plus lent, je crois. Le Bouillon, ça vient de Guadeloupe. Et le Chata, peut-être de Dominique ou de Martinique, je sais plus, vous me corrigerez si je me trompe, je suis pas un spécialiste non plus de musique caribéenne, mais ce qui est intéressant, c'est que ces types de musique là commencent à déferler petit à petit sur TikTok et puis même plus globalement en France aussi, métropole, pour danser dans les clubs,
ouais,
etc. Et là sur TikTok, y a déjà 2,4 millions de vues de vidéos autour de la musique Belek de Aya Nakamura
en 5 jours.
Ah ouais, c'est énorme,
c'est incroyable.
Dès que c'est sorti, ça a été un tube là-bas dans les Caraïbes. Et puis là, ça y est, c'est en train de déferler sur la France. On sent là aussi, pareil, est-ce que c'est une stratégie réfléchie en amont? Est-ce que c'est juste naturel? Mais en tout cas, c'est la bonne vibe, c'est la bonne vague pour aller prendre des places sur TikTok.
Oui, et ben justement, c'est intéressant ça, ce sujet des influences zouk. Alors, on va pas parler musique ce matin, mais à proprement parler. Mais Aya Nakamura, ce qu'il y a de ouf, c'est que c'est une réussite internationale sur des sons qui sont pas internationaux.
Oui, aussi. Ouais.
Voilà, déjà, c'est des sons qui sont afro et qui sont là clairement caraïbéens.
Ouais, caribéen,
ce qui est marrant parce qu'elle est d'origine franco-malienne.
Ouais, elle est malienne.
Donc, rien à voir avec les îles, avec la Guadeloupe, la Martinique, etc. Et donc, forcément, c'est très intéressant de voir comment cette vibe-là, soit elle en est initiatrice, ce qui est possible, soit elle la nourrit et elle la popularise avec, en creusant un peu sur 2-3 articles autour de ces thématiques bouillon, etc. Zouk, Chata, donc ces musiques caribéennes, et ben c'est vrai qu'elles explosent en ce moment sur TikTok avec une autre artiste hein, qui s'appelle j'ai un petit trou, elle s'appelle Maureen. Voilà, Maureen, elle a un titre qui s'appelle Tic, T-I-C. Voilà, je connaissais pas, mais j'ai pu aller voir ce matin des tonnes et des tonnes de vidéos reprenant ce titre, qui est un vieux titre qui date de 2015 hein, ouais, mais qui est repopularisé en ce moment très très fort par TikTok.
Ah, c'est la force
donc,
de cette plateforme.
Ça c'est marrant. Et là, puisqu'on parle de TikTok, il faut trop parler de la présence de la marque Aya Nakamura sur les réseaux sociaux, une présence qui vaut de l'or.
Ouais, ouais, 2 millions d'abonnés, 8,8 millions de likes sur la plateforme et une stratégie bien différente de Instagram. Hein. D'ailleurs, on peut faire le parallèle entre les deux. Instagram, c'est plus de 3 millions de fans de l'autre côté et Instagram, c'est vraiment plus léché. Il y a
c'est CRP, on a l'impression.
Voilà, il y a beaucoup de photos de shooting, etc.
C'est la homepage de la marque, c'est vraiment bossé
là,
comme ça.
Quand vous êtes sur TikTok, vous êtes dans ses backstage, vous êtes avec elle, c'est les backstage de ses clips, mais surtout, c'est des playbacks légendaires face caméra d'Aya Nakamura où elle balance ses morceaux et elle te fait des playbacks de 30 secondes avec une petite choré, etc. Et un peu partout. Et c'est assez... C'est assez drôle parce que on a l'impression en tout cas que c'est très spontané, qu'elle peut être dans son canapé chez elle et t'as l'impression qu'elle s'ennuie et que du coup elle lance le truc. Elle peut être en attendant dans des backstage d'émissions télé ou de médias qu'elle doit faire et du coup bah elle a une petite pause et elle se fait kiffer, elle met la musique et elle chante et elle danse. Et en fait du coup il y a un côté et une énorme proximité je trouve dans sa prise de parole sur TikTok qui renforce vraiment ce côté communautaire dont on parlait tout à l'heure.
Ouais, alors 3 millions d'abonnés sur Instagram, 2 millions d'abonnés sur TikTok. C'est énormissime. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est effectivement de voir la stratégie de marque, elle est très différente, en tout cas elle est très adaptée à la plateforme.
Exact.
Sur Instagram, effectivement, un peu papier glacé, t'as les dates de tournée, les sorties d'albums, c'est vraiment la homepage,
la com,
le
quoi,
site web
de base,
la com de l'artiste. Ouais. Et puis de l'autre côté, effectivement, comme tu l'as dit, c'est le travail de la proximité avec ses audiences, avec son public. Très intéressant. Et puis, pour revenir sur ces petits face cam en lip dub, comme ça, en playback, aussi le travail autour de la gestuelle.
Bien sûr,
de la chorégraphie.
Il y a des chorés à chaque fois.
Autant d'outils qui sont décryptés par ces 2 millions de fans aussi et qui sont réintégrés derrière dans les réinterprétations TikTok.
Bien sûr,
TikTok,
ça lance forcément des tendances TikTok et on a envie de danser comme Aya Nakamura, forcément. Quoi.
Allez, autre point très intéressant pour nous qui sommes des marketeurs, qui nous sommes des gens du social media, c'est de regarder comment c'est organisé le plan média de cette sortie d'album.
Ça, c'est très, très intéressant.
Un événement et comment ça a été bossé. Un plan média extrêmement sélectif qui passe exclusivement ou presque par les médias de niche, les médias digitaux.
Ce qui est ultra intéressant, c'est que déjà, comme on avait un peu évoqué quand on avait fait un épisode sur la communication de Booba, c'est une artiste qui a très bien compris que pour parler à ses personas, à sa communauté, déjà, elle a les réseaux sociaux. Et que du coup, en fait, les grands médias classiques, mainstream, etc., ça l'intéresse pas forcément et elle a pas besoin d'eux pour aller parler à ses fans, aux gens qui achètent ses albums, etc. Et ça, c'est quand même tout un paradigme qui a changé depuis quelques années avec l'avènement des réseaux sociaux aussi fortement. Les artistes n'ont plus besoin d'aller se faire les grosses émissions à 5, 6 millions d'audience parce qu'ils ont d'autres endroits où ils peuvent aller parler à leurs fans. Et du coup, ça se ressent aussi dans leur choix d'émission, comme tu le disais. Aya Nakamura, elle a pas forcément une histoire avec les médias mainstream où elle est très à l'aise et où elle a été beaucoup prise au sérieux. On se souvient notamment qu'elle a été très mal à l'aise sur le plateau du Téléthon, il me semble, où ça avait fait un petit peu polémique parce que elle avait un peu bégayé, elle savait pas trop ce qu'elle devait répondre, ce qu'elle faisait là. Ouais. Donc ça s'était pas super bien passé et puis souvent les médias mainstream l'ont un petit peu ramené à des clichés qui pourraient presque être un peu dans un fond de misogynie ou de racisme, la diva qui où on parle souvent de son physique, où elle est très grande ou costaud ou etc. On parle rarement de sa musique en fait.
Totalement.
Et je pense que c'est ça qui est. Et comme beaucoup d'ailleurs d'individus qui sortent de la musique urbaine, ils fuient les médias mainstream parce qu'au final, on parle rarement de leur musique et on parle souvent d'à côté ou d'autres choses. Donc, elle a fait des choix, effectivement, très straight to the point. Elle est allée dans le podcast de Léna Situation. Moi, c'est les deux gros trucs que j'ai retenus.
Ça, c'est extraordinaire, je trouve, parce que là, t'as deux success women, deux meufs qui cartonnent aujourd'hui. On va parler après aussi du positionnement, de la logique de clivage aussi. Je veux dire du personnage clivant que peut-être Aya Nakamura, comme malgré elle, Léna Situation.
Ouais, bien sûr.
deux meufs super fortes, businesswomen, issues de ce qu'on appelle les minorités en France et qui cartonnent. Moi, je trouve que ça, rien que ça, c'est beau
parce que les deux, en fait, elles représentent quand même quelque chose de très grand en France et très important pour beaucoup de monde. Et là, on l'a vu. Déjà, il y a le thème qu'elles abordent dans le podcast. Hein. Le podcast s'appelle « Rien à prouver », l'épisode du podcast avec Aya Nakamura. Sûrement parce que du coup, elles ont quand même le sentiment qu'elles doivent tout le temps prouver un peu plus que les autres. Hein. C'est pour ça qu'elles l'ont appelé comme ça. Et elles parlent notamment, d'ailleurs, dans l'épisode des haters. C'est assez intéressant parce que du coup, elles parlent de tous les gens qui, des vagues un peu de haine hein, qu'elles se sont prises toutes les deux sur les réseaux sociaux parfois aussi. Et d'ailleurs, la chanteuse résume assez bien les choses en disant « Après, bon, je regarde mon compte en banque, je me dis ça va. » Et c'est assez drôle. Mais en tout cas, je trouve que c'est hyper intéressant, comme tu disais, d'avoir ces deux personnages là français qui représentent vraiment quelque chose d'important pour une génération et qui se retrouvent toutes les deux à discuter pendant 35 minutes. C'est hyper intéressant, allez écouter l'épisode.
On vous met le lien en note de cet épisode.
Et là, une fois de plus, bah oui, Aya Nakamura, elle choisit à qui elle va s'adresser en allant chez Lena Situation. Et d'un autre côté, bah pour la musique, pour justement parler un peu plus de son album, de vraiment comment elle l'a construit, etc. Pareil, elle va pas n'importe où. Elle va chez Mehdi Maizi dans le code sur Apple Music, qui est quand même une émission qui est assez niche dans le rap et la musique urbaine. Et d'ailleurs, Aya Nakamura, elle a longtemps voulu se détacher aussi un peu
du rap.
Alors, elle aime bien faire des feats avec des rappeurs, etc.
Mais c'est pas une rappeuse.
Mais elle, c'est vraiment une chanteuse pop. Et elle a jamais rappé et elle rappe pas. Et du coup, c'est assez intéressant parce que elle se retrouve face à un journaliste, Mehdi Maizi, qui aime bien aller disséquer les albums, les écouter, parler vraiment de comment ils ont évolué. Et pareil, c'est un épisode ultra intéressant du coup sur comment elle a construit son album, pourquoi elle a fait ses choix là musicaux aussi autour de la musique caribéenne, pourquoi elle est revenue avec beaucoup plus de sons très banger, un peu tube, alors que son dernier album était beaucoup plus perso, beaucoup plus intimiste, etc. Donc, on sent que là, il y a des vrais choix éditoriaux qui sont faits pour aller, comme tu le disais, s'adresser à ses personas, en fait. Quand elle va chez Lena Situation, elle s'adresse à un de ses personas. Quand elle va chez Mehdi Maizi, elle s'adresse à un autre de ses personas. Et elle va pas chercher à aller parler à tout le monde en permanence.
Ouais, c'est fascinant, ce plan média. Et on le voit de plus en plus, hein, tu l'as dit, sur les artistes musicaux, et notamment ceux issus de la musique dite urbaine. Ouais. Effectivement, d'aller choisir ses cibles, choisir ses canaux de prise de parole. Très intéressant à suivre. Moi, j'aimerais aussi qu'on parle du personnage Aya Nakamura, hein, et plus globalement de savoir si en France, moi je pose la question un peu ouvertement, de savoir si en France on a un problème avec les personnages clivants ou avec les personnages à succès. Tu vois, je trouve que Aya Nakamura, peu importe ce que j'en pense musicalement,
oui,
mais
oui,
la success story
est incroyable.
Elle est incroyable. Ce qu'elle dit aussi
De la société aujourd'hui,
de la société
de tout
en
ça,
France, qu'elle dit aussi de notre influence culturelle, de nos influences culturelles, dans la manière dont on peut encore,
c'est
nous, petit pays au milieu de cette grande planète, rayonner à l'échelle mondiale.
Tu l'as dit tout à l'heure, ce qui est quand même fantastique, c'est une Française d'origine malienne qui fait de la musique sur des tubes caribéens. C'est quand même incroyable.
Et qui cartonne le monde. C'est quand même extraordinaire. On devrait tous être fiers de ça. Et ben, malgré tout, aujourd'hui, c'est success story un peu fulgurante, hein, parce que c'est le cas d'Aya Nakamura. On parle, elle est là depuis 2015, elle explose maintenant, donc en très peu de temps, hein, 5-7 ans, elle s'est vraiment installée. Et je vois les mêmes choses. C'est pour ça que la discussion avec Lena Situation, elle est très intéressante,
bien
parce
sûr,
que pour moi, elles sont passées par le même chemin. C'est des personnages à succès qui, malgré elles, sont devenues clivantes. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a un problème en France avec les success stories? Sans doute. Hein. Est-ce qu'on a un problème avec les success stories qui viennent des quartiers plus compliqués
aussi,
sans doute aussi.
Et puis attends, faut quand même se dire que en France, des femmes originaires de la diversité, il y en a pas tant que ça qui arrive à statuts comme Lena Situation ou Aya Nakamura, qui est encore plus gros, je pense, que Lena Situation. Déjà parce que ce sont des femmes et qu'elles vont sûrement avoir plus d'embûches sur leur chemin pour arriver là. Et en plus, comme elles sont issues de la diversité, ça fait deux raisons pour lesquelles elles peuvent avoir beaucoup plus de choses à prouver justement que d'autres.
Et juste un point sur Aya Nakamura. Ce qu'il y a de fascinant, c'est que ce personnage qu'on voit effectivement sur les médias ou qu'on perçoit, il porte en lui une certaine candeur, une sorte de naturel.
Ouais.
Et donc on a l'impression que tout ça est très instinctif. Et c'est vrai qu'elle brouille très bien les cartes. Moi, mon feeling, hein, de marketeur, c'est que t'en arrives pas là sans avoir une stratégie et des tactiques très établies. établi, oui, sans avoir pris un certain nombre de décisions. On en a parlé ce matin sur le sujet de son approche très communautaire, son travail autour de la base fan en premier, bien sûr. Son écriture pour développer et populariser des expressions, son travail aussi de plan média, etc. Tout ça est très étudié. Donc sous ces airs de naturel qui peuvent parfois agacer, je pense, certains vus de l'extérieur. Attention, là, on a quand même un génie du mal et une tactique marketing très établie.
Non, c'est vrai, t'as raison. Écoute, t'avais d'autres choses à... Est-ce que t'as d'autres choses à...
Non,
on a fait un joli tour déjà.
Faites-vous votre avis. Allez écouter l'album. Moi, perso, c'est pas ma tasse de thé, mais voilà, respect.
Moi, il y a quelques morceaux que j'aime bien quand même, hein, sur lesquels on va encore danser.
Ma fille va me le réclamer, c'est ça le pire, je le sais d'avance.
Écoutez, en tout cas, ce que vous n'aimiez ou pas la musique de Aya Nakamura, nous on est intéressés surtout pour que vous veniez nous en parler sur les réseaux sociaux @supernatif. Venez nous raconter ce que vous pensez justement de sa stratégie marketing. Est-ce que vous avez les mêmes avis que nous? Est-ce que vous trouvez effectivement qu'elle s'adresse directement à ces personas, ou au final c'est juste une chanteuse mainstream voilà, qui parle à tout le monde et au final rien n'est caché.
Allez, venez
Facebook,
parler avec
Instagram,
nous d'Aya Nakamura,
Twitter, LinkedIn, partout,
et puis vous écoutez ce podcast dans une appli de podcast, balancez cet épisode à un pote, à une pote, faites circuler la news, comme ça on sera de plus en plus nombreux à
Sinon,
bord.
On se retrouve tous les matins à 9h sur Twitch.
Exactement.
Dès lundi.
Merci à tous.
Allez,
la
ciao,
bise.
Ciao,
ciao, ciao.